EMCI TV vous présente l'émission Teach avec Atoms. Un temps d'enseignement et d'étude de la parole de Dieu afin de faire de vous des disciples et vous aider à grandir dans votre foi.
Bienvenue sur Teach, votre mission d'enseignement et de maturité spirituelle. Vous savez, la parole de Dieu est source de vie. C'est à travers elle que nous gardons notre relation avec le Seigneur et que nous influençons le monde qui nous entoure par la vérité de l'Évangile. Cette émission a été conçue pour vous permettre de comprendre et d'appliquer intentionnellement les Saintes Écritures comme un disciple de Jésus-Christ. Dès le début de cette semaine, nous avons commencé à étudier les caractéristiques d'une Église dite vivante, une Église selon Jésus. Les points qui ont donné leur preuve dans la Bible et dans l'histoire de l'Église qui manifeste que cette église locale-là est une église, selon Dieu, une église vivante. On a commencé déjà d'hier à parler des trois caractéristiques. Je vous ai prévenu que je ne parle pas ici dans l'ordre de priorité et peut-être aussi que ma liste n'est pas exhaustive. Mais aujourd'hui, commençons donc avec d'autres caractéristiques et au bout de cette émission, on en aura certainement trois autres et qui vont s'ajouter à la liste et qui nous permettront soit de travailler pour que nos églises soient pareilles ou alors de se poser la question si où on va, c'est réellement comme ça. Entre-temps, let's teach, grandissons ensemble. Tout de suite, j'aimerais vous le dire. Caractéristique numéro 4, c'est le respect du sacré. Une église locale, un rassemblement de gens qui viennent pour Jésus-Christ. Que ce soit l'église du désert, vous vous souvenez à la première émission de cette série, je vous ai dit qu'Israël était considéré comme étant déjà un peuple mis à part dans le désert à travers Dieu, à travers Moïse. Ils sont sortis du désert comme une sorte d'ecclésia appelée hors d'eux. Que ce soit Israël, que ce soit l'église aujourd'hui, le sacré garde sa place. Le respect du sacré. Dans une église locale dite vivante qui veut vraiment glorifier le Seigneur, on doit respecter ce qui est sacré. Qu'est-ce qui est sacré? Ce qui est sacré, tout simplement, la foi chrétienne, on utilise le mot sacré pour pouvoir dire que tout ce qui est consacré à Dieu, le lieu, les individus, les rites, les choses qui sont faites, tout ce qui est consacré à Dieu doit être respecté. Si je suis en train de dire qu'en entrant à l'église, on ne doit pas parler, on ne doit pas monter à la chaire, on ne doit pas toucher ces sites-là. Non, je vais d'abord dire principalement que le sacré ici fait référence à la sanctification personnelle, puis au respect et à la sanctification de tout ce qui concerne Dieu et l'œuvre de Dieu. Une église dite vivante, c'est une église qui met en avant la sanctification personnel. Le fait que chacun de nous est un temple du Saint-Esprit et qu'il ne s'appartient pas à lui-même et qu'il est donné à Dieu, il est consacré. Il ne doit pas vivre n'importe comment. Quand vous allez dans une église, la façon de faire, la façon de s'habiller, la façon de parler doit respecter le fait que le corps appartient à Dieu, le fait que notre esprit appartient à Dieu, le fait que notre âme appartient à Dieu. La sanctification est un sujet important, abordé, encouragé. Le respect du sacré. Mais par le respect du sacré, je viens de le dire tout à l'heure, mais c'est aussi le respect de tout ce qui est mis à part, que ce soit les choses qui concernent Dieu. On ne doit pas prendre la Sainte Cène à la légère, c'est sacré. On ne doit pas prendre les baptêmes, ce n'est pas pour faire plaisir aux parents, c'est sacré. L'offrande que le peuple donne appartient au Seigneur et à son œuvre, c'est sacré. La chair, là on monte pour pouvoir prêcher, ce n'est pas un lieu de spectacle où on va donner un défilé de mode, où on va pouvoir exprimer toutes ses émotions comme on le voudrait. Ça n'appartient pas au pasteur, ça appartient à Dieu, c'est sacré. Lisons quelques textes. Dans 2 Timothée, chapitre 2, versets 20 à 23. 2 Timothée, chapitre 2, versets 20 à 23. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, il y en a aussi en bois et en terre cuite. Les premiers sont réservés à un usage noble, les autres sont destinés à un usage vil. Eh bien, si quelqu'un se garde pur de tout ce dont j'ai parlé, il sera un vase destiné à un noble usage, purifié, utile à son propriétaire, disponible pour toutes sortes d'œuvres bonnes. Fuis les passions qui assaillissent un jeune homme. Fais tous tes efforts pour cultiver la foi, l'amour et la paix avec tous ceux qui font appel au Seigneur d'un cœur pur. Refuse les spéculations absurdes et sans fondement. Tu sais qu'elles suscitent des querelles. Paul parle à Timothée, lui dit, dans une maison, il y a plusieurs types de vases. Il y a des vases spéciales plutôt, qui sont utilisés pour des buts particuliers. Des vases d'honneur. Et dit, si tu vis ta vie en t'éloignant de tout ce qui assaillisse, tout ce qui envahisse la vie d'un jeune homme, tu vis ta vie dans la sanctification en te mettant à part, Dieu va t'utiliser comme un vase d'honneur. C'est toujours à Paul, plutôt à Timothée, que Paul écrit en disant, « J'ai écrit ces choses pour que tu saches comment te comporter dans la maison de Dieu, qui est la colonne de la vérité. » Il n'y a pas seulement comment se comporter seul dans sa vie chrétienne, mais aussi comment se comporter quand on est ensemble, en respectant ce qui est sacré. Mes frères, les instruments de l'Église ne vous appartiennent pas. Pourquoi vous allez vous promener avec quelque chose qui appartient au Seigneur? Les biens de l'Église ne vous appartiennent pas. Pourquoi vous allez avoir aucun respect? Vous voyez les gens monter à la chair, utiliser les ustensiles de la Sainte Cène. Les choses qui sont pour l'honneur de Dieu sont utilisées comme un bien personnel. Pas seulement ça, on sent dans l'atmosphère qu'il n'y a aucune crainte, aucune conscience de la présence divine, ni dans le culte, ni dans la vie individuelle de ceux qui le font. Certains en train de chicler leur mouchoir, leur chewing-gum à leur manière, d'autres en train d'amener des habitudes. Allez, chicler le chewing-gum, c'est encore un autre débat culturel ici. Mais ce que j'essaie de dire ici, les choses qu'on ne ferait pas en présence de quelqu'un qu'on honore, on ne devrait pas le faire dans la maison du Seigneur et dans l'assemblée de chrétiens. Dieu donne au peuple d'Israël un exemple parce qu'il voulait leur dire qu'il ne donnait pas comme il se devait et que la Bible dit qu'il le trompait dans les dîmes et dans les offrandes. Alors il dit ceci, prenez l'animal que vous m'avez donné, allez le donner à votre gouverneur. C'est ça l'équivalent aujourd'hui. Il dit, donnez-la, vous voyez la vache là que vous me donnez, vous dites que c'est pour Dieu, donnez ça au gouverneur s'il va aimer, s'il va vraiment vous recevoir avec joie. Si votre propre gouverneur n'accepte pas parce que c'est chétif, parce que c'est pas bien, pourquoi vous pensez pouvoir le donner à Dieu? Juste une belle comparaison qui montre que quelquefois Dieu aussi dit, écoutez, vous voulez m'honorer, vous ne me voyez même pas. Je regarde comment vous honorez ce que vous considérez honorable. Je veux voir comment vous faites. Quand vous venez à la maison du Seigneur, respectez le sacré. Si vous ne vous rendez pas comme ça dans la maison d'un gouverneur, d'un président, pourquoi vous rendrez-vous comme ça à l'Église? Respectez le sacré. Si vous arrivez dans un musée, vous ne toucherez pas à des choses comme ça. Respectez le sacré. 1 Corinthiens, chapitre 11, versets 25 à 30. Une assez bonne lecture. 1 Corinthiens, chapitre 11, versets 25 à 30. De même, après le repas, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance scellée de mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez en souvenir de moi. Donc, chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur et ceci jusqu'à son retour. C'est pourquoi quiconque mangerait le pain ou boirait de la coupe du Seigneur d'une manière indigne se rendrait coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine sérieusement lui-même et qu'alors il mange de ce pain et boive de cette coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner, c'est que le corps se condamne lui-même en mangeant et en buvant ainsi. C'est pour cette raison qu'il y a parmi vous tant de malades et d'infirmes et qu'un certain nombre sont morts. » Aujourd'hui, quand on parle du sacré, on a tendance à avoir une réponse chrétienne qui dit « Nous ne sommes pas dans l'ancienne alliance, nous ne sommes plus dans la loi. Dieu est un Dieu de grâce. » Le sacré, ne le confondez pas avec l'Ancien Testament. Le sacré est lié à la personne de Dieu, pas aux alliances. Ce qui est sacré reste sacré. Ce qui est dédié au Seigneur doit être respecté. C'est pourquoi nous vivons notre vie dans la sanctification. Pourquoi? Parce que nous sommes un temple à Dieu, nous le sommes consacrés. Nous sommes sacrés. Nous devons regarder cela pur. Alors, il ne s'agit pas de la nouvelle alliance, de l'ancienne alliance ici. Je viens de vous lire la nouvelle alliance, Paul, en train de rappeler aux Corinthiens la Sainte Cène, le jour où Jésus a donné justement ce symbole. Son corps, son sang. Il rappelle la scène, il montre l'importance de la Sainte Cène. Il dit, on ne devrait pas manger la chair et boire le sang indignement. Chacun devrait s'examiner. C'est sacré. Il dit, ce que vous êtes en train de faire comme un symbole, en réalité, a une importance spirituelle. Et il dit, c'est la raison de la plupart des maladies parmi vous et la plupart d'infirmités parmi vous. Vous savez, jusqu'à ce moment-là, je ne sais pas si les Corinthiens étaient conscients que certaines des maladies qu'ils avaient au milieu d'eux étaient dues au manque de respect du sacré dans la Sainte Cène. Alors, il faut mettre tout dans son contexte ici. Les Corinthiens, quand ils se rencontraient, Paul le dit quelque part, et toujours, il leur dit, j'apprends que même quand vous rencontrez, ce n'est plus pour vous édifier, mais c'est pour vous perdre. Quand on disait la table du Seigneur, le repas, les Corinthiens faisaient tout en excès. Ils mangeaient jusqu'à se rassasier, ils buvaient jusqu'à s'enivrer, et Paul était fâché, dit, est-ce que vous n'avez pas vos propres maisons pour manger? Ce qu'on appelle la table du Seigneur, ce n'est pas juste une gastronomie, c'est quelque chose de sacré. Ce sont des symboles spirituels forts. C'est un point de contact avec ce qui est spirituel. Ce que vous mangez comme pain, ce que vous buvez comme vin, c'est la chair du Seigneur et son sang que vous êtes en train de consommer symboliquement de cette manière. Il existe dans notre propre vie, que ce soit dans le temple où nous venons pour nous rencontrer, des symboles qui sont physiques, mais dont l'importance est spirituelle et Dieu considère cela comme sacré. Souvenez-vous que certains fils d'Aaron ont pensé que parce qu'il n'y avait plus de flamme dans le temple, ils sont allés allumer eux-mêmes un feu et qu'ils ont ramené pendant que la première flamme a été allumée par Dieu. Dieu a dit, oh feu étranger, ils ont amené un feu dans ma maison pendant que c'est moi qui devais moi-même allumer ma flamme. Et ils ont été frappés. Mes frères, très peu de gens à l'église font le lien entre la qualité de leur vie et leur manque de respect du sacré. Surtout les serviteurs. Quand je dis serviteurs, je ne parle pas seulement des pasteurs et des prédicateurs. Je parle de chantres, je parle de gens qui servent au protocole, à la sécurité, intercesseurs. De fois, on a tendance à croire que notre service compenserait les autres principes spirituels. Vous voyez, quelqu'un qui chante, il est là, il glorifie le Seigneur. Quand on a fini de chanter, dès qu'il finit de chanter, quand il a fini de chanter, il a toujours une bonne raison, il descend, il sort. Pendant qu'on prêche, il est dehors. Ou quand il chante, c'est le moment des offrandes, il ne donne jamais les offrandes parce qu'il est généralement debout en train de prêcher. Et il pense que, bon, l'Église ne remarque pas. Et bon, lui se sent exempté de poser cet acte qui est sacré. Et il se pose la question, pourquoi il n'arrive pas à vivre dans l'abondance. Parce qu'un principe sacré n'est pas respecté. Une église dite vivante, c'est là où on sait reconnaître qu'on est à la maison du Père, pas du grand-père céleste. On n'est pas chez Pépé, on est chez Papa, là où les choses doivent être respectées. On respecte ce qui s'est fait, on respecte les symboles, on respecte le moment. À partir du moment où on s'est entendu sur quelque chose de sacré, on a consacré un jour, on a consacré une habitude. À partir du moment où l'Église locale a reconnu que ceci fait partie de nos habitudes sacrées, le respect du sacré. On parle de la sanctification personnelle, on sanctifie les choses, les événements, on sait reconnaître des choses qui sont consacrées à Dieu et on le respecte. Ça, c'est important. Vous savez, en tant que pasteur, les quelques années que j'ai fait à servir, à diriger les églises, j'ai souvent entendu les gens se plaindre dans les assemblées au sujet de l'heure de fin du culte. Ah, on ne respecte pas le temps des gens, on n'a pas respecté ce qu'on s'est dit au Seigneur. On avait dit qu'on commencera à 17h, on finira à 19h. Il y a eu tout le temps des débordements. Pourquoi les débordements sont toujours au nom du Saint-Esprit? Mais j'ai constaté aussi que de l'autre côté, ceux qui veulent tellement qu'on finisse à l'heure ne sont pas toujours venus à l'heure. À l'heure, ce n'est pas seulement l'heure de fin. À l'heure, c'est aussi l'heure de début. Si on en a consacré l'heure, on n'a pas consacré que la fin. On a consacré aussi le début. J'aimerais vraiment nous encourager, si nous voulons vivre dans une église vivante, à consacrer ce temps. Quand vous donnez votre offrande, ce n'est pas votre frais de participation. C'est votre contribution au koinonia. Souvenez-vous, j'expliquais ça. Vous êtes en train de participer au corps du Christ, mais vous êtes aussi en train de rendre votre devoir chrétien. Alors, ça ne demande pas votre présence. Tant que vous en avez et que vous en aviez des disponibles, si vous êtes bloqué dans les embouteillages, si vous n'avez pas pu venir physiquement et que vous êtes en train de suivre ce culte en ligne, qu'est-ce qui vous empêche de faire parvenir aussi votre offrande? Parce que c'est sacré. Quand vous savez qu'une chose appartient au Seigneur, quand vous êtes dans une église locale, on doit faire ressentir à tous. Ça, mes amis, ce n'est pas la blague. Ça, mes amis, ce n'est pas entre nous. Ça, c'est à Dieu. Vous êtes en train de compter les offrandes. Là, derrière, personne ne vous voit. Ce n'est pas un lieu de jeu. C'est sacré. Vous êtes en train de servir aux gens la Sainte Cène. Ce n'est pas juste du vin et du pain. C'est sacré. Vous montez pour servir le Seigneur. Votre accoutrement ne devait pas être scandaleux. C'est sacré. Mais je dois quand même dire qu'il existe une réalité culturelle là-dessus. Certains ne sont pas scandalisés par une chose, d'autres ne le sont pas. Et je m'en répétais encore ce que j'ai dit à l'émission passée. Aucune culture humaine ne doit prévaloir sur la bonne pratique de l'instruction biblique. Aucune culture humaine ne doit prévaloir sur la bonne pratique des instructions bibliques. Alors, la meilleure culture, ce n'est pas la vôtre, c'est celle de la Bible. Et la meilleure façon de pratiquer ça, c'est comment la Bible le dit. Et ça, c'est très important de savoir que ce qui est sacré reste sacré. Et la nature, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, la Bible elle-même nous donne des référencements. Il dit des fois, regardez comment vous respectez entre vous et une personne élevée, vous et le gouverneur, regardez comment vous me respectez. Et quand on respecte la présence de Dieu, on respecte l'œuvre de Dieu, on respecte Dieu, en commençant par le pasteur, jusqu'à la personne qui travaille pour laver les installations hygiéniques, tout le monde devrait respecter le sacré par la qualité de sa propre vie et la façon dont il les traite, les objets, le lieu, les choses qui appartiennent au Seigneur. Cinquième caractéristique, deuxième pour aujourd'hui, l'aisance du Saint-Esprit. Quand vous venez dans une église locale, l'un des indicateurs que vous êtes dans une église locale vivante, l'Esprit de Dieu devrait être à son aise. L'Esprit de Dieu, permettez-moi les termes, devrait être libre d'action. Le Saint-Esprit dirige, il est à l'aise. Le Seigneur nous a donné son esprit. Il nous a permis depuis qu'il est parti physiquement, il a dit que c'est l'Esprit qui devait conduire et diriger l'Église. Et quand nous servons Dieu, c'est l'Esprit qui est en train de diriger. Le culte doit être conduit par l'Esprit. Les systèmes sont conduits par l'Esprit. Les relations sont conduites par l'Esprit. Le Saint-Esprit est à l'aise. Alors, je voudrais quand même dire, quand on dit l'aisance de l'Esprit, mes amis, on ne veut pas dire désordre. Parce qu'il y a ceux pour qui, quand on dit l'aisance de l'Esprit, la première chose qui vient à leur tête, c'est qu'on ne respecte pas le temps, tout le monde saute comme il veut. Non, aisance de l'Esprit ne rime pas avec désordre. Aisance de l'Esprit rime avec le fait qu'on se soumet à la volonté de l'Esprit. On reste sensible à son orientation. Les conventions humaines ne s'imposent pas sur la volonté de Dieu. Jésus-Christ est arrivé un jour dans une synagogue et lui, il apporte la guérison. Et les gens de la synagogue se fâchent. Ils disent, allez vous faire guérir ailleurs. Si c'est la maison de Dieu, Dieu devrait guérir. Dieu devrait guérir. Dieu devrait être à l'aise. L'Église vivante, ce n'est pas seulement celle qui, dans ses réunions de dimanche, mais dans la vie de tout le jour, ils sont conduits par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a sa place, toute sa place. Je vous lis quelques textes pour cela. Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 1 à 3. Il y avait dans l'Église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius et Cyrène, Manaëm, qui avaient été élevés avec les héros des Tétraques, et Saul, pendant qu'ils servaient, je pense que c'est chapitre 14, pas 4, désolé, pendant qu'ils servaient les seigneurs dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Paul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Vous voyez ça, mes amis? Le Saint-Esprit dirige et c'est lui qui décide. C'est l'heure de Paul. Laissez-le partir. c'est l'heure de Barnabas, de parler Barnabas, laissez-leur partir. Quand on est dans une église locale, c'est là où l'esprit dirige. Les gens, les hommes souffrent dans leur volonté, mais ils obéissent à l'esprit. Est-ce que vous pensez qu'ils n'avaient pas envie de rester ensemble? Ils avaient envie de rester ensemble, mais ils ont dû les laisser partir. Ce que je venais de lire tout à l'heure pour vous, c'était plutôt Actes des Apôtres, chapitre 16, n'est-ce pas, à partir du premier verset. Mais plutôt, maintenant, nous allons lire Actes des Apôtres, chapitre 4, plutôt, à partir du verset 5-6. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer dans Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Je pense que le texte est bon, c'est Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 5 à 6. Ici, l'Église est fortifiée, l'Église grandit, ainsi de suite. Mais Paul veut aller dans cette flamme-là. On est en train de gagner les âmes, alléluia. L'Église s'étend. C'est le meilleur moment d'aller prêcher l'Évangile, gloire à Dieu. Ils veulent aller partout, mais l'Esprit de Dieu ne leur permet pas. L'Esprit de Jésus. Vous imaginez, on est conduit par l'Esprit au point que l'Esprit puisse te dire d'aller pas prêcher. Est-ce que le Saint-Esprit peut vous dire, n'ouvrez pas une église là-bas? Est-ce que le Saint-Esprit peut vous dire, pas de conférence cette année? Ça, c'est une église conduite par le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est à l'aise parce que c'est lui qui prend les décisions. C'est pas juste le programme, c'est pas juste le projet, c'est pas juste le plan qu'on avait prévu dans la stratégie, mais l'Esprit s'impose dans la gestion financière, dans la décision de l'organisation de l'Église, dans les choix des personnes. L'Esprit s'impose. Actes des Apôtres, chapitre 20, versets 22 à 23. « Et maintenant me voici en route pour Jérusalem. L'Esprit m'y oblige, mais j'ignore ce qui m'y arrivera. » Tout ce que je sais, c'est que le Saint-Esprit m'avertit de ville en ville que je dois m'attendre à être emprisonné et à connaître bien ses souffrances. C'est Paul qui parle. Il dit, voilà, j'ai fait l'œuvre de Dieu, je vais par-ci, par-là. L'Esprit m'oblige. Je sais que je vais aller souffrir, mais c'est l'Esprit qui me conduit, je suis derrière lui. Une église vivante, c'est là où les prédicateurs, les serviteurs sont obligés par l'Esprit, non par leur agenda caché. Verset 27 dit, « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. » C'est l'Église du Seigneur. Le Saint-Esprit vous a établi évêque. L'Église du Seigneur, l'Église vivante, c'est l'Église où c'est le Saint-Esprit qui a établi les gens. Pas les gens qui ont juste fait leurs propres églises. Non, mais on reconnaît qu'on est ici parce que le Saint-Esprit a le dernier mot. Actes des Apôtres encore, 21, 10 à 11. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia le pied et les mains et dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, le Juif, le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Voilà une église. On est là en train de prier, en train de parler, mais l'un d'entre nous, conduit par le Saint-Esprit, vient dire ce qui doit être fait. 1 Corinthiens, chapitre 14, versets 26 à 33. Comment donc agir, frères et sœurs, lorsque vous vous réunissez, l'un chantera un cantique, l'autre aura une parole d'enseignement, un autre une révélation. Celui-ci s'exprimera dans une langue inconnue, celui-là en donnera l'interprétation. Que tout cela serve à faire grandir l'Église dans la foi. Si l'on parle dans des langues inconnues, que deux les fassent, ou tout au plus trois, et qu'un l'un après l'autre, et qu'il y ait quelqu'un pour traduire. S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise plutôt que de parler dans une langue inconnue dans l'assemblée, qu'on se contente de parler à soi-même et à Dieu. Quant à ceux qui prophétisent, que deux ou trois prennent la parole, et que les autres jugent ce qu'ils disent. Si l'un des assistants reçoit une révélation pendant qu'un autre parle, celui qui a la parole doit se taire. Ainsi, vous pouvez tous prophétiser à tour de rôle afin que tous soient instruits et stimulés dans leur foi, car les prophètes restent maîtres d'eux-mêmes. Dieu, en effet, n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. On vient de dépeindre une église remplie du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu est à l'aise, mais Paul répète. L'Esprit agit, les dons se manifestent avec ordre. Dieu est un Dieu d'ordre. L'esprit de prophète est soumis au prophète. Quand quelqu'un prophétise, son esprit est sous son contrôle. Il peut se maîtriser. Alors quand je parle de l'aisance de l'esprit, je ne parle pas de désordre. Je parle de l'ordre, mais je parle de la liberté et du commandement de l'esprit, de sa priorité et de sa suprématie. C'est l'esprit qui dirige. Quand vous voulez aller dans une église vivante, vérifiez si c'est une église où l'esprit dirige ou juste les hommes font ce qu'ils veulent faire. Pour aujourd'hui, le troisième ou le sixième point dans notre liste, la délivrance. Allez, quand je dis délivrance, tout de suite, vous êtes en train de penser à une séance où on chasse des démons. Donc, une église vivante, c'est une église où on chasse des démons, on parle des liens et on délivre. Non, ce n'est pas de ça que je suis en train de parler. Je dis ceci, une église vivante, c'est une église où Christ libère. Frères et sœurs, Jésus l'a dit lui-même, que l'onction était sur lui, l'esprit est descendu sur lui pour libérer les captifs aussi. Dans sa mission, le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. Une église vivante ne peut pas rester comme ça là, sans prendre conscience qu'elle devait combattre spirituellement, détruire les œuvres du diable et libérer les gens qui viennent de leur fardeau. Quand les gens viennent dans l'église, ils ont de fardeau, ils le souffrent. Ils doivent en avoir la délivrance. Par le mot délivrance, je ne parle pas toujours d'une séance de prière d'autorité où on chasse des démons dans quelqu'un. Je parle déjà par la connaissance de la parole. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Mais je parle aussi de la délivrance de l'ignorance. Je parle aussi de la délivrance qui arrive quand on échange juste la vérité. Les uns les autres confessent leurs péchés et ils en sont délivrés. Mais les gens ne peuvent pas venir dans une église vivante et on ne prend pas conscience qu'ils peuvent être chargés, qu'ils peuvent être liés. N'est-ce pas que Jésus a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos ». L'Église devait être un endroit où Jésus donne du repos et libère les gens. Quelques textes dans Luc chapitre 13, versets 10 à 16. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Voyez, c'est ça, c'est de ça que je parle ici. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais les chefs de la synagogue, indignés de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ce jour-là et non dans le jour de sabbat. » Le Seigneur lui répondit, « Hypocrite que vous êtes, chacun de vous ne détache-t-il pas son bœuf ou son âne de la mangeoire pour le mener à l'abreuvoir le jour du sabbat ?» Et cette femme, qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait en son pouvoir depuis 18 ans, fallait-il ne pas la délivrer de sa chaîne aujourd'hui parce que c'est le jour du sabbat? Frère, la délivrance existe pour ça. D'autres textes encore, Matthieu 10, 7 à 8. En chemin, annoncez que le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, rendez purs les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement. Donner gratuitement. Tous ces textes pour montrer que l'œuvre de Dieu, l'œuvre de l'Église, quand on se rassemble, Jésus veut guérir, comme il a guéri dans la synagogue. Il nous a donné le mandat de délivrer des gens, de les libérer de leur maladie, de leur fardeau, au niveau psychologique, au niveau émotionnel, au niveau physique. L'Église est un endroit de liberté et de libération. Si vous avez compris ces trois caractéristiques, commencez à regarder de près et commencez aussi à y penser. Comment les développer dans votre assemblée? Pour moi, je vous vois demain pour qu'on continue encore avec 3 autres caractéristiques. Et je parie qu'on se rapproche de plus en plus au genre de points auxquels vous vous attendiez. Alors pour l'instant, let's teach.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires de EMCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Teach sur emcitv.com.